Savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Savoir plus. Cette semaine, plusieurs sujets. On va tout d'abord s'intéresser à une nouvelle exposition au musée du Louvre-Lens, l'exposition Louvre Design qui se situe dans le pavillon de verre du musée, un reportage signé René Lavergne de Radio Campus.
Dans le cadre de Lille Métropole 2020, capitale mondiale du design, l'exposition Louvre Design, proposée aux visiteurs du 7 octobre au 1er février 2021, célèbre le design et ses origines. Elle crée un dialogue entre une sélection d'œuvres du Louvre de l'Antiquité à 1850 et une sélection d'objets issus de la démarche design de 1850 à nos jours. Nous retrouvons Samir Rio, l'un des deux co-commissaires de cette exposition, dans le pavillon vert du Louvre-Lens le 6 octobre, veille de son ouverture au public. Samir Rio, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes designer et vous avez réalisé le co-commissariat de cette exposition qu'on peut voir actuellement au Louvre-Lens, Louvre Design, à voir donc jusqu'au 1er février dans le pavillon de verre. Tout d'abord, votre collaboration avec l'autre co-commissaire.
Alors oui, je suis co-commissaire avec Claire Fayol, qui est écrivaine et journaliste et historienne du design, assez influente, on va dire. Et du coup, on a fait le commissariat de l'exposition ensemble, et moi je me suis aussi chargé de la scénographie dans le pavillon de verre.
Voilà, donc au départ, pour vous, le design, c'est une passion ?
Moi, je suis artisan au départ, ébéniste. Le design, c'est plutôt été vu comme une curiosité, et puis ensuite c'est devenu une nécessité, parce que je pense que c'est une discipline par laquelle on peut faire bouger les choses et un petit peu bouger les lignes, et qui permet d'aborder énormément de sujets, et puis d'une nécessité après c'est devenu une passion. Oui.
Donc le design en France est un mot assez récent, on va dire, dans l'usage courant. En Angleterre, ça correspondait peut-être plus à un mode de vie déjà.
Les anglo-saxons utilisent beaucoup design, mais ils mettent un autre adjectif derrière, c'est-à-dire c'est un product design, fashion design, graphic design. Donc ils segmentent c'est vrai que la manière dont on parle du design en France, alors ça peut être du design de service, du design produit, du design d'édition, mais c'est quand même très lié, très lié à l'objet. Mais je pense que oui, même quand on voit les précurseurs du design en France, ce sont des gens qui sont partis travailler aux États-Unis ou qui ont étudié au Royal College of Art à Londres, des gens comme ça qui sont allés chercher des notions du design plutôt dans des pays anglo-saxons pour le ramener en France. Mais disons que la pratique du design, elle était déjà présente en France. C'est simplement qu'on n'avait pas encore posé le mot dessus. On parlait plutôt de créateurs industriels.
Donc quand on parle industrie, on revient peut-être aux années 1850 et le grand développement qui a eu lieu en Occident, d'une manière générale.
Oui, aux premières expositions universelles, à la première révolution industrielle, à l'arrivée de la possibilité de produire en plus grande quantité et des objets d'une plus grande technicité grâce à l'arrivée de nouvelles formes de motricité dues au charbon, à la vapeur, etc. Et qui, en fait, heureusement, malheureusement, mais finalement, de bonnes choses ont découlé, qui ont été, l'industrialisation, elle a ensuite été quand même accélérée par les différentes guerres qui ont suivi cette révolution industrielle. Chaque guerre a donné comme une impulsion supplémentaire à l'industrie, et en fait de ces efforts de guerre ont découlé à chaque fois une nouvelle ère de l'industrie civile, on va dire, duquel le design est en fait l'héritier aussi.
Le design est un nom, mais c'est aussi quelque chose qui qualifie une ligne esthétique parfois, une fonctionnalité un peu particulière d'objets d'usage courant mais parfois détourné.
Ben aujourd'hui, c'est là la richesse du design et de la manière, en tout cas, dont les praticiens le perçoivent aujourd'hui. Par le grand public, il y a encore cette notion de style ou de modernité, je pense, qui est peut-être contenu dans le mot, par la manière dont il est généralement véhiculé. Je pense que le design est, par ceux qui le font, ceux qui en parlent et ceux qui l'apprennent, sert aujourd'hui à parler d'énormément de choses et de société, de problèmes aussi de société. Mais aujourd'hui, le design, ça peut être du design de scénario d'usage en vue des politiques publiques et de gestion d'un territoire, comme ça peut être le dessin d'une chaise, mais ça peut être aussi d'un habitat d'urgence pour une zone où il y a une catastrophe naturelle. Donc le designer a tendance de temps en temps à se voir un peu en tant que sauveur. Je pense pas qu'il faut que ce soit perçu comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une discipline qui, par son côté généraliste et sa globalité, permet d'intervenir dans beaucoup de champs d'application et permet aussi de faire se rencontrer d'autres pratiques qui ne se seraient pas forcément croisées, car parfois trop spécialisées ou trop cloisonnées.
Donc cette exposition Louvre Design, donc jusqu'au 1er février à Lens, Samerio, elle est intégrée à l'ensemble du dispositif Lille Capitale Mondiale du Design. Comment vous êtes réparti les tâches en région?
Alors, j'ai travaillé du coup avec Céline Savoie, qui est la première personne qui m'a contacté, qui elle gère justement toute la partie Lille Capitale Mondiale du Design, et avec Hall, qui sont autour du Louvre-Lens aussi, cette organisation, et avec le Louvre-Lens. C'est eux, le Louvre-Lens et Lille Design Capital, qui ont eu l'idée de l'exposition et qui nous ont associé, Claire et moi, ensuite à l'exposition. Moi, je ne suis pas de la région, je viens des Cévennes, mais je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin que tous les acteurs de l'exposition viennent de la région. L'idée, c'était justement de faire venir le plus d'acteurs possible pour cet événement qui est Lille Design Capital et de pouvoir ensuite l'étendre sur le territoire, en particulier profitant du Louvre-Lens, et voilà, de faire venir des acteurs qui aient un œil sur ce que l'événement global pouvait raconter. Quand on voit les expositions qu'il y a en ce moment à Lille et celles qu'on ouvre ici et ce qui se passe au Fresnoy, etc., on se rend compte de du message fort qu'en fait toute cette manifestation arrive à faire passer.
Voilà, donc à Lens, au musée du Louvre-Lens, évidemment, il y a une culture particulière, muséale, on va dire, et des objets qui sont préservés, soit au Louvre-Lens, mais aussi au Louvre en Paris, et puis dans d'autres lieux, des objets auxquels vous avez fait appel pour donc présenter dans cet espace, l'espace de verre, on va dire ça, hein, du Louvre, Lens, donc des objets qui sont mis en perspective, en dialogue.
Oui, l'idée, c'était de faire dialoguer des objets antiques issus des collections du Louvre Paris avec des objets domestiques contemporains, pour parler de la permanence de nos besoins, de nos usages, de l'esthétique, de la technique, et aussi de montrer qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de design depuis quelques décennies, depuis que le mot a été adoubé par la langue française, mais qu'en fait, le design, c'est la manière dont toutes les civilisations, que toutes les civilisations ont eu de transformer une matière naturelle en un objet, en des objets, en des semi-produits. Mais voilà, finalement, on se rend compte que le design est hérité de traditions qui sont, au-delà d'être séculaires, qui sont vraiment millénaires, et qu'il a toujours été présent dans la manière dont l'homme s'adaptait à son environnement et à son milieu.
C'est vrai qu'on voit bien que l'histoire et les pratiques dans l'histoire, la vie des hommes, ont toujours essayé de mettre les objets dans le meilleur de leur forme, si on peut dire, pour peut-être donner une petite touche de personnalisation ou d'esthétique à leur environnement.
L'esthétique et la personnalisation, c'est toujours quelque chose qui est apparu une fois qu'une civilisation avait survécu et avait réussi à s'installer. Ce qu'on trouve toujours en premier, c'est les outils de première nécessité. Et on se rend compte assez vite que ces outils, une fois qu'on a que le confort et la survie est assuré, bah c'est là qu'on se met à les décorer et à ajouter de l'ornement et en fait à leur donner une personnalité et à leur donner une culture aussi. Parce que je pense que la culture du design, elle est autant héritière de la technique, de la production des matériaux, qu'il s'agisse d'industrie ou d'artisanat, mais que de l'esthétique et de la manière dont tout ça est approprié autant par les designers qui la font que par les usagers qui se l'approprient ensuite.
Donc les designers sont les héritiers des artisans, on peut dire ça comme ça.
Oh, il y a beaucoup de designers qui sont artisans aujourd'hui. Il y a beaucoup de designers qui sont de l'autoproduction. Mais oui, complètement. Historiquement, en tout cas chronologiquement, les designers sont les héritiers des artisans et permettent aujourd'hui une hybridation, en tout cas une porosité entre une industrie qui d'une part continue à se cloisonner, mais qui laisse quelques technologies, quelques outils grâce au numérique sortir de ces jalons et ça permet aux designers, aux artisans de s'en saisir et de créer peut-être une nouvelle forme d'artisanat qui ait un peu plus de sens que l'industrie actuelle qui n'a pour but que le progrès et qui est un petit peu sans fin aussi.
Dans le design, il y a le design de luxe, on va dire, mais il y a aussi des artistes de design, je pense à Stark par exemple, qui ont populariser des formes de design très pratiques et qui a fait baisser des coûts d'une certaine manière.
Le design, c'est avant tout ce qui souhaitait être. C'était un design populaire. Le design de luxe, il existera toujours. Lui aussi est héritier de l'artisanat. Mais le design à bas coût, voire même le design anonyme, le design populaire, c'est celui qui doit le plus exister. Mais le design de luxe, il y a un effet de cascade en fait dans le design, si vous voulez, parce que toutes les techniques qui peuvent être mises au point pour dessiner des objets en petite série dans une galerie sont ensuite des choses qui vont ruisseler et découler vers un design plus populaire. Et Stark, vous le citiez, en est un très bon exemple. Il fait autant des pièces uniques extrêmement onéreuses, mais desquelles découle une technique et un nom aussi qui lui permettent ensuite de travailler avec les plus grands éditeurs et de faire des objets abordables pour le plus grand nombre.
Une dernière question, Samir Hiot. Donc là, on est dans un temps fort en région, mais qui est un temps à l'image de l'immensité du monde international. Hein. Comment la France se situe par rapport à cet ensemble de l'art du design dans le monde entier ?
L'Europe, de manière générale, le design scandinave, le design italien, les Anglais, les Allemands. Mais disons que oui, toute l'Europe se situe quand même très bien mondialement au niveau du design. Et la France est aujourd'hui, je trouve, une plutôt bonne ambassadrice, dans le sens où elle est capable d'avoir des cabinets de design qui rayonnent à l'international, mais elle est capable aussi de manière un peu plus anonyme d'avoir des studios design intégrés de grandes marques qui œuvrent pour le mieux et aussi de commencer à faire de la recherche par le design et par l'expérimentation et la pratique, ce qui aujourd'hui est essentiel pour la transition écologique.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à Samir Hiot, donc interviewé le 6 octobre. La veille de l'ouverture de cette exposition Louvre Design au musée du Louvre-Lens. Cette exposition est proposée aux visiteurs du 7 octobre au 1er février 2021 dans le pavillon de verre du musée du Louvre-Lens. Son accès est gratuit, tout comme l'accès qui le précède à la Galerie du Temps. Rappelons que le musée est fermé le mardi. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Voilà pour ce reportage sur cette nouvelle exposition au pavillon de verre du Louvre-Lens, signé donc René Lavergne de Radio Campus. À présent, on va déborder un peu du cadre de Savoir Plus. On va parler d'une polémique née en région Île-de-France, mais qui n'est pas sans lien avec la région et le département. Vous le savez, pendant le confinement, la fracture numérique a été parfois bien visible dans certaines familles dont les enfants n'ont pas forcément accès à un ordinateur. Et parfois, les collectivités tente de réagir en fournissant aux enfants de ces familles des équipements numériques. La région Île-de-France a ainsi décidé de doter pour la rentrée scolaire 2020 l'ensemble des lycéens et lycéennes de seconde d'un ordinateur portable gratuitement. Or, un enseignant, professeur agrégé à la Sorbonne du nom d'Arnaud Roux, a poussé un coup de gueule sur le réseau social Twitter. Il reproche notamment à la région Île-de-France d'avoir investi 180 millions d'euros dans des ordinateurs, selon lui, inutilisables, sous-dimensionnés, super lents, fabriqués en Chine et pas en France, et toujours d'après cet enseignant, on ne peut installer aucun logiciel dessus. Et Arnaud Roux va plus loin dans la critique. Pour lui, de nombreux élèves n'en ont tout simplement pas besoin, car ils sont déjà équipés d'un ordinateur et ne l'utiliseront pas. Alors, qu'en est-il exactement? Pour en savoir plus, nous avons contacté Jean-Yves Hepp, le président fondateur de la société UNY. C'est l'entreprise française basée dans les Hauts-de-Seine qui a répondu à la commande publique de la région Île-de-France et qui a donc fourni ses ordinateurs aux nouveaux lycéens entrant en seconde en Île-de-France.
Alors Jean-Yves Hepp, quelles sont les caractéristiques techniques des ordinateurs qui ont été livrés aux lycéens d'Île-de-France?
Il s'agit d'un ordinateur très moderne, donc tout en métal, léger, qui pèse un peu plus d'un kilo 3, donc ça c'est important pour les cartables. C'est un ordinateur équipé du système d'exploitation Windows 10 Pro, d'un processeur Intel Celeron, de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go SSD de capacité de stockage. Il a un écran Full HD, donc une très très bonne qualité d'écran, et il est équipé d'une connectique complexe avec 3 USB dont un USB-C, un mini HDMI, un micro SD et une prise jack.
Alors l'enseignant qui a déclenché cette polémique affirme qu'il est impossible d'installer des logiciels sur ses ordinateurs, qu'ils sont, selon ses termes, je le cite, bridés. Qu'en est-il?
Non, les ordinateurs ne sont pas bridés. Ce qui est en fait pas possible, c'est d'installer des applications qui touchent au système. Mais enfin, vous savez, ne pas permettre à des ados de 15 à 18 ans d'aller toucher au droit d'administration système, c'est tout à fait normal pour une collectivité. Donc on peut installer tous les logiciels du marché, on peut installer tout ce qu'on veut à partir du moment où on ne touche pas à l'administration système. D'ailleurs, depuis son tweet, beaucoup d'enseignants expliquent qu'ils peuvent installer toutes les applications utilisateurs qui n'ont pas besoin de droit de système. Donc, pour vous citer quelques exemples, un prof de maths parlait de Sinequalon, Scilab, Celestia, BCMath, et même d'Anaconda, qui est un environnement de développement Python, qui va permettre de faire des maths, des sciences numériques et technologiques. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas charger de logiciels, puisqu'on peut faire exactement ce qu'on veut. Par contre, c'est clair qu'on ne donne pas les mots de passe pour toucher à l'administration du système, ce qui est bien logique pour éviter finalement d'avoir des logiciels malveillants, des virus ou tout simplement des piratages, ce qui serait pas terrible que d'avoir sur ces ordinateurs offerts par la région des logiciels piratés.
Mais ça, il n'y a pas de problème, les enseignants ont les mots de passe d'administration, eux.
Alors, pour l'instant, comme le déploiement se fait au fur et à mesure, les enseignants n'ont pas les mots de passe administration, mais c'est quelque chose qui pourra sans doute s'envisager dans le temps. Mais vous savez, aujourd'hui, à travers, s'ils demandent qu'on rajoute des applications à la région, tout pourra se faire. Donc aujourd'hui, c'est pour moi une fausse polémique, parce qu'on peut installer tout ce qu'on veut dessus.
Alors, ces ordinateurs ont-ils été, comme l'affirme encore ce même enseignant, entièrement fabriqués en Chine, ce qui en soi ne serait pas surprenant, puisque c'est le cas de la très grande majorité, en fait, des ordinateurs du marché?
Alors, là aussi, moi, ça me fait sourire et enfin, je comprends pas bien ce genre de remarque parce que dans le monde, il n'existe pas d'ordinateur fabriqué ailleurs qu'en Asie. C'est soit la Corée, soit Taïwan, soit la Chine, soit la Thaïlande, aujourd'hui le lieu de fabrication des ordinateurs. Donc oui, nos ordinateurs ont été fabriqués en Chine, mais comme je l'ai dit depuis un long moment dans les médias, mon souhait, c'est de rapatrier le fait d'assembler ces ordinateurs en France. On a déjà commencé avec les tablettes, parce qu'on fait aussi les tablettes, et l'idée, et là pour le coup, je trouve très étonnant finalement de taper sur la boîte française qui fait tous ses efforts pour rapatrier ce savoir-faire d'assemblage en France, alors que tous les ordinateurs du monde, qu'ils soient américains ou asiatiques, sont fabriqués en Asie.
Alors pourquoi, finalement, selon vous, ces critiques sont injustes ?
Pour plein de raisons. Je pense que d'abord tout est faux dans ce qu'il raconte. Alors c'est très étonnant. Moi je le connais pas, ce monsieur, et s'il vous écoute, j'adorerais lui parler parce que c'est un enseignant, donc c'est quelqu'un a priori honnête et de bonne foi. Moi je suis fils de prof, hein, donc j'ai vécu dans un certain nombre de valeurs que m'enseignait ma mère. Donc je peux pas croire qu'il ait fait ça volontairement. Mais dans ce qu'il écrit, tout est faux. Il dit que YouNoWhy est une boîte chinoise. Moi, c'est une boîte que j'ai créée il y a 13 ans. Elle est bien française. Elle est domiciliée en Ile-de-France. Il dit que il y a 180 millions d'euros dépensés cette année pour acheter ces ordinateurs. Mais c'est faux. C'est fait pour acheter les ressources, pour installer le Wi-Fi, pour le NT, pour distribuer. Par ailleurs, hein, quand il dit qu'il y a que 30 gigas, c'est un ordinateur 4.64, il faut bien installer Windows, il fallait mettre tous les manuels numériques hein, sur l'ordinateur, donc toutes les matières, tous les niveaux, seconde, première, terminale, donc ça aussi c'est totalement faux. Il parle de 34 000 ordinateurs, il y a plus de 350 000 machines qui ont été livrées, il parle de 5 000 euros par ordinateur, ça coûte moins de 400 euros. Il dit que c'est un processeur Celeron minable. Bon, écoutez, Intel, c'est quand même le leader mondial des processeurs. Donc, si on dit qu'un processeur Intel est minable, faut voir avec Intel.
Alors, c'est peut-être pas le processeur le plus véloce non plus. On est d'accord.
C'est le prix, si vous regardez aujourd'hui, un processeur Celeron, c'est un N4100, donc c'est ce qui fait mieux en Celeron. C'est le prix aujourd'hui sur le marché. Si vous voulez mettre du Core i, du Core i5, i7, on peut faire ça. Nous, YouNoWhy, on sait faire. Mais on va parler de machines 3 ou 4 fois plus chères. Or, là, il faut rester raisonnable. Il faut revenir à la base. C'est fait pour quoi, ces ordinateurs? C'est fait pour un usage éducatif et personnel des ados de 15 à 18 ans. Donc, ça leur permet d'accéder à leur espace numérique de travail, d'échanger via le cloud, qui est branché dans les Hauts-de-France. Hein, là aussi, nous, on est très patriotes sur ce sujet. C'est-à-dire que les données sont soit chez OVH, soit chez Worldline. D'accord. Ça, c'est aussi une spécificité de YouNoWhy, c'est de travailler à ce que les données des enfants et des enseignants, d'ailleurs, soient stockées en France. Ils vont pouvoir ensuite avoir accès à la bureautique, ils vont pouvoir consulter Internet, accéder à tous leurs livres numériques, mais aussi visionner des séries ou jouer dessus quand ils sont à la maison. Donc, si vous voulez, tout ce qui est dit est faux. Ensuite, bon, le côté pourquoi on s'emploie à la boîte française qui fait ça, moi je comprends pas bien. Il y a plein de boîtes chinoises qui fabriquent en Chine, qui vendent des PC à des collectivités, on ne leur dit jamais rien. Mmh. Les GAFAM, pourtant, qui sont montrés du doigt en France aujourd'hui, ils vendent aux collectivités et il n'y a pas une remarque. Je vous assure que tous les GAFAM fabriquent en Chine. Oui. Il dit que les élèves n'en ont pas besoin. Moi, je l'invite alors à sortir de Paris et venir avec moi en banlieue faire des distributions de PC dans les lycées. Moi, j'ai eu des gamines ou des gamins qui sont venus me voir en me disant « Merci, vraiment, on en avait besoin. » On sort du Covid et on y re-rentre. Vous imaginez les familles où il y a 3 ou 4 enfants, un seul ordinateur quand il y en a un, à se partager pour faire l'école. Et ben, quand les gamins vous regardent dans les yeux en vous disant « Merci, j'en avais vraiment besoin. » Et ben, moi, je l'invite. Franchement, ça prend 2 heures de faire une distribution. Je veux bien qu'ils viennent avec moi faire une distribution. Et puis, ce qui me gêne le plus, ce qui est le plus injuste pour moi, c'est le mépris du travail des autres. Vous savez, j'ai recruté, et cette boîte, je l'ai créée de zéro, j'ai recruté dans mes équipes des développeurs, des ingénieurs. Mon associé, il est comme lui, parce que j'ai vu qu'il avait un PhD, ce monsieur, il est docteur en traitement du signal. Il est issu de la recherche publique. C'est-à-dire que on crée en France les conditions d'avoir un numérique qui fait face aux GAFAM d'un côté et aux BATX de l'autre. C'est-à-dire qu'on donne l'opportunité à des développeurs, des ingénieurs, des chercheurs, des docteurs de travailler dans une boîte française pour inventer le futur numérique de notre pays. Mais au-delà des ingénieurs et des développeurs qui ont travaillé, on a des chefs de projet qui ont travaillé avec les profs, qui ont travaillé avec les référents numériques des lycées. On a la Poste qui a mis en place un système pour distribuer dans plus de 500 lycées des PC dans les temps au mois de septembre Alors que je vous rappelle, on risque de re-rentrer dans une phase de Covid où les enfants vont devoir retourner avec leur machine à la maison. Donc la Poste a fait un travail remarquable pour livrer dans les délais les machines aux enfants. Donc il dit qu'il n'est pas content un dimanche matin en se réveillant. Ben, moi, j'ai des équipes et c'est des centaines de personnes qui ont travaillé à faire en sorte que ces centaines de milliers d'enfants soient équipés à la rentrée avec des outils qui vont leur permettre la continuité pédagogique. Donc c'est en ça que je trouve ça très injuste. Moi, je lui en veux pas parce qu'encore une fois, c'est un enseignant. Donc je suis convaincu que ce monsieur est de bonne foi. Je serais très heureux de le rencontrer, de lui montrer comment on a travaillé. Donc j'ai pas de rancœur, mais je trouve ça très injuste.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Hepp pour votre réaction. Je rappelle que vous êtes le président, hein, fondateur de You Know Why, donc la société qui a donc livré, hein, les ordinateurs aux élèves de seconde, hein, aux lycéens d'Île-de-France, donc des ordinateurs qui ont été eh bien payés, achetés, hein, par la région Île-de-France et livrés gratuitement donc à ces élèves. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Voilà sur ce sujet, un titre de comparaison, hein, sachez que par exemple le conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé, hein, pendant la période de confinement, de mettre à disposition des collégiens qui ne possédaient pas chez eux de matériel informatique, hein, nécessaire pour la poursuite des cours à distance et au suivi pédagogique, eh bien des ordinateurs ou des tablettes qui étaient utilisés habituellement dans les collèges, hein, qui sont gérés, comme vous le savez, par le département, sachant que les lycées sont gérés, eux, par la région Hauts-de-France. Il faut savoir qu'au sein du département du Pas-de-Calais, le département a investi dans les établissements, dans les collèges, dans des classes pupitres qui figurent au sein des collèges, également dans des vidéoprojecteurs interactifs dont chaque classe est désormais équipée, et également dans des valises tablettes dans les établissements ayant au moins une section Ulysse, ce qui correspond aux unités localisées pour l'inclusion scolaire. Un sujet d'ailleurs que vous retrouverez également demain matin, hein, dans la chronique Geek Plus. Allez, tout de suite, un peu de musique avant de retrouver l'actualité du département.
Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Je porterai plus que mes bas noirs. Je ne te demanderai plus de m'appeler quand tu rentres tard. Et même si je voulais savoir où tu es et qui tu vois, qui te sépare de moi, je ferai semblant. Quoi des mensonges, et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. Mais laisse-moi rester femme. Vu ce qu'on l'a, yeah. toi qui te sais pas moi. Je ferai semblant de croire tes mensonges et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. Mais laisse-moi reste pas
Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Picasso.
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. And keep on hey. Reading the signs of my body. Hey. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction. Baby, this is perfection.
Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it.
I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. I know I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Baby,
Shakira,
this is perfection. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, self-restraint, have come to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain.
Sexy AM and fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch us? Colombians and Haitians, I ain't guilty, it's a musical transaction. Boop, boop, zoop, boop, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. The attraction, the tension, baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting,
no fighting.
À l'instant, Shakira, bien sûr, avec Wyclef Jean et Hips Don't Lie sur Radio Plus. On s'intéresse à présent à l'actualité départementale. parlions du numérique il y a quelques minutes, un secteur, une technologie qui concerne non seulement les jeunes générations, mais aussi les seniors. En effet, dans le cadre de la Semaine Bleue qui se déroule du 5 au 11 octobre, le département, partenaire historique de l'opération, a souhaité mettre en avant une action innovante en lien avec le numérique, le cinéma, le théâtre et la musique. L'idée est simple, s'appuyer sur un dispositif existant, celui de la bibliothèque numérique de la médiathèque départementale, une bibliothèque riche d'1 million de documents numériques. Vous l'aurez compris, il s'agit donc de permettre aux personnes âgées d'accéder à cette vaste, très vaste bibliothèque numérique de films, de documentaires, de pièces de théâtre, de musique, grâce à des outils numériques. Une opération à laquelle participent également des établissements spécialisés et des résidences de personnes âgées. Les proches et les familles ont aussi la possibilité, durant cette semaine, eh bien, d'inscrire leurs aînés dans ce dispositif Semaine Bleue numérique, afin de faire bénéficier leurs aînés de ce contenu pour une année. Voici Johnny Hallyday avec De l'amour.
C'est pas facile de se faire un beau jour lâché. Perdre prise de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années, comme le boulot que je venais de trouver. Mais là-bas, toi ne veux plus embauché, il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'en avais trop pour nous deux. J'en avais trop pour nous deux. Et je je sais pas comment je vais me débrouiller. De quelle façon faut savoir encaisser. Si le ciel pouvait au moins se lever, on pourrait aller enfin le décrocher. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'était maintenant, c'était maintenant. Je m'en vais. C'était maintenant, c'était maintenant, je m'en veux. Et je sombre pour nos deux. Hey! Je t'aimais.
Johnny Hallyday sur Radio Plus à l'instant avec de l'amour. Tout de suite, on poursuit bien évidemment l'actualité départementale. En avions parlé la semaine dernière dans Savoir Plus, le département du Pas-de-Calais va embaucher 6 médecins généralistes qui vont intervenir dans plusieurs secteurs du département afin de pallier au manque de médecins dans certaines zones. Eh bien, sachez que la semaine prochaine, vous entendrez sur cette antenne Odette Durier, conseillère départementale socialiste du canton de Douvrin, qui viendra nous apporter des précisions sur ce dispositif initié par le département. Par ailleurs, la semaine prochaine aussi dans Savoir Plus, nous vous parlerons très largement de la visite du village d'entreprise de Ruy, organisée par la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane. Son président Olivier Gacquer, également maire de Béthune, a tenu à l'issue de cette visite hier, rappeler effectivement le soutien de la communauté d'agglomération aux très petites entreprises pendant cette période de crise très délicate. On l'écoute.
D'abord vous montrer les outils sur la position à la fois des entrepreneurs, des entreprises du territoire, mais aussi des outils qui sont donc à la main de l'agglomération. Quand on dit qu'on doit mener une politique de développement économique, il faut des acteurs, des outils, ça en fait partie. Les messages forts qu'on voulait vous faire passer ce matin, c'est d'abord de voir que il y a la crise économique qui est là, mais plus profondément, on a vu que ce qui fait la différence et qui peut permettre le rebond à une activité économique locale, c'est l'innovation. On a vu le numérique, c'est aussi l'économie circulaire. Et globalement, ce qu'on a entendu des entreprises qui étaient là et qui se sont exprimées, c'est un, la volonté de coopération, qu'on puisse tous ensemble essayer d'avancer et trouver des nouveaux marchés, bien évidemment. Et puis, j'ai entendu aussi la responsabilité sociétale qui est la nôtre collectivement, et qui doit nous amener à de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés. On a parlé du recyclage, l'économie circulaire. Donc ce sont toutes des activités à forte valeur ajoutée sur lesquelles on est capable, me semble-t-il, d'aller et assez rapidement. L'agglomération, pour ce faire, elle a donc quelques outils. Ça a été dit, donc l'immobilier d'entreprise, premier sujet. On a expliqué notre stratégie, qui est peut-être de nous désengager là où le modèle est à maturité, pour peut-être nous repositionner, recréer une offre complémentaire, pour pouvoir accueillir encore plus facilement les porteurs de projets. Deux, c'est d'encourager l'entrepreneuriat, encore et toujours, ça s'acculture, et je pense qu'on manque encore de porteurs de projets sur notre territoire, alors qu'on ne manque pas de talents. Et c'est pour cela qu'on va essayer aussi d'accélérer le cluster tourné territoire intelligent, donc cluster d'innovation, qu'on a enclenché, qu'on a créé au mois de février 2020 sur le territoire, pour justement aller chercher les opportunités et accompagner toutes et tous ceux qui pourraient être en capacité de produire des emplois sur notre territoire. Et puis, à plus court terme, donc on l'a dit, c'est à peu près 1 200 000 euros qu'on aura engagé, à la fois dans le fonds d'urgence et le fonds de relance, pour les entreprises du territoire, et pas que, parce qu'on participe à une opération régionale sur le fonds de relance Covid. Et à ce titre-là, donc, nous avons délibéré mardi dernier. Donc on va participer, comme j'ai indiqué, vous l'avez ça dans vos documents, à hauteur de 2 euros par habitant. Donc on essaye aussi de soutenir pas que les entreprises, les grandes et moyennes entreprises, mais aussi les TPE, toutes celles qui finalement maillent le territoire et qui se sont parfois senties un peu seules, abandonnées. Quoi. Donc on essaye d'être là en filet, mais surtout de donner des perspectives d'avenir. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire.
Voilà, reportage complet avec les entreprises visitées notamment, et puis d'autres propos d'Olivier Gacquer, le président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane et maire de Béthune, à retrouver la semaine prochaine dans votre émission Savoir Plus.
pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les filles c'est les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tarde ta gueule à la récré. Tarde ta gueule.
Alain Souchon avec J'ai 10 ans sur Radio Plus. Vous êtes toujours dans l'émission Savoir Plus, hein, qui arrive quasiment à son terme. On va vous parler, eh bien, à présent de nos confrères de l'avenir de l'Artois, de ce jeudi, qui fait sa une et puis un article complet sur l'Artois, capitale de la bière. On vous propose justement de voter, hein, pour que l'Artois soit capitale de la bière, puisque il faut savoir qu'il y a un an, hein, le président de la région, Xavier Bertrand, appelait de ses voeux une cité de la bière, en Haute-France, avec donc un territoire, l'Artois, qui a des atouts, et donc l'hebdomadaire vous propose de voter. Vous disposez de 6 jours pour voter et de choisir, eh bien, justement, quel territoire sera capitale de la bière. Il y a donc un duel qui vous est proposé par l'avenir de l'Artois entre l'Artois et la Flandre. On a quand même des atouts, hein, dans le territoire de l'Artois. On pense par exemple à la brasserie Saint-Germain, à l'origine de la fameuse bière Page 24, à consommer évidemment avec modération, hein, on le rappelle, puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est une brasserie qui est située du côté d'Aix-Noulette et qui produit donc cette bière. Et puis il y a évidemment la fameuse brasserie Castelin, avec la bière du Ch'ti que vous connaissez, et beaucoup d'autres brasseurs et micro-brasseurs situés dans le Béthunois et l'Arrageois notamment, également du côté de Carvinck. Donc voilà, article à lire chez nos confrères de l'avenir de l'Artois cette semaine. Et puis sachez également hein, sur un tout autre sujet qu'on continue évidemment à Radio Plus de suivre, eh bien l'affaire Bridgestone, hein, puisque vous le savez, hein, l'usine est menacée de fermeture. La semaine prochaine également, on essaiera de vous apporter quelques précisions sur le suivi qui est fait actuellement, et notamment une interview hein, d'Olivier Gacquer que l'on vous diffusera la semaine prochaine. Voilà, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous souhaite eh bien un très bon appétit à toutes et à tous. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Flash Info, ce sera à midi, et ce sera suivi de Cinérama. Très bonne fin de matinée et bon appétit à toutes et à tous.
On nous dit qu'il faut licencier, puisque ça rassure les marchés, faire des courbettes à la finance. Faut relancer la croissance, pourquoi pas délocaliser, il paraît qu'on n'est plus à ça près. Toutes ces réformes, moi je trouve ça louche, ils n'ont que ce mot à la bouche, on trimballe, on s'endort. Pendant qu'on coule des lingots d'or, c'est la déroute, c'est la banqueroute, on nous fait payer coûte que coûte. Et si on entrait en dissidence, change pas de braquet, puisqu'on vous dit qu'on met le paquet, faut qu'on s'adapte, faut qu'on dégraisse. Serrez encore un peu la laisse, n'effrayons pas les actionnaires, ne soyons pas réactionnaires. La politique politicienne, je vous garde un chien de ma chienne, mais qui est responsable de la crise, qui nous a foutu dans la mouise. J'ai rien à voir avec cette tête, j'ai même pas fini mon assiette. Et si on entrait en dissidence, si on laissait parler l'innocence, si on entrait en dissidence, laissons de côté la prudence, laissons-nous entrer en transe. Je voudrais pouvoir acheter mon lait sans être vu comme une vache à lait, une cible, un consommateur, comme un sale cochon de payeur, sans qu'on me refourgue un crédit, un forfait de plus, une assurance. Gardez vos offres promotionnelles, vos newsletters et vos panels, à quoi ça sert d'aller aux urnes?